Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B. Et au menu aujourd'hui, l'info du jour, Rennes, deuxième ville la plus verte de France. Deux interviews d'abord avec le Secours catholique d'Ille-et-Vilaine qui présente un rapport annuel national sur la pauvreté. Puis on décrypte l'ouvrage du collectif À l'Ouest, protesté à Rennes dans les années 68, c'est son nom. Il y aura de la musique dont une nouveauté et puis recommandation le jeudi des archives du mois de novembre. Bienvenue dans La Reine. Allez, l'info du jour pour commencer, je vous passe l'invitation du patron de Bridor, le breton Louis Le Duf, à ce qui est présenté comme le G20 de la gastronomie aux States, vous valez mieux que ça. Non, je retiens plutôt un classement qui fait de Rennes la deuxième ville la plus verte de France. Alors ce classement, il vient de l'Observatoire des villes vertes et il prend en compte les espaces verts publics, le budget consacré, le nombre d'arbres par habitant et la surface globale de verdure rentrent aussi en jeu pour arriver au palmarès suivant. La première place, elle est occupée par la ville d'Angers, puis viennent Rennes et Strasbourg. Rennes qui grimpe donc dans le palmarès car en 2020 on était à la 7e place et ce bon résultat il s'explique surtout par la démarche Rennes 2030 engagée par la municipalité et qui prévoit une accélération de la végétalisation de la ville. En effet, 22% de la surface à Rennes sont dédiées aux espaces verts, 63% de la voirie sont arborées. Les projets de vergers urbains ou de micro-forêts ont également joué en notre faveur. On pense par exemple au potager des cultures du Blône, qui est géré par l'association des Cols Verts. Les initiatives pour désimperméabiliser les sols ont aussi été valorisées, ce que propose la ville de Rennes avec un permis de végétaliser trottoirs, mais aussi façades et toits. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'une première interview en compagnie du Secours catholique d'Ille-et-Vilaine qui sort son rapport annuel sur la pauvreté, un document qui s'appuie à l'échelle nationale sur l'observation de plus de 49 000 ménages parmi le million de bénéficiaires accueillis par l'association. Et la moitié d'entre eux, là, de ce million de bénéficiaires, ce sont des enfants, pour être précis. Le focus cette année, il est fait sur la pauvreté au féminin, qui a souvent à voir avec un contexte de séparation, dont le poids et puis la charge des enfants repose davantage sur les femmes. Allez, interview. Véronique Olnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée départementale donc dans la délégation brétilienne du Secours catholique, une association qui vient en soutien aux personnes en situation de précarité et qui organise une conférence débat sur le thème de la pauvreté des femmes. C'est jeudi 16 novembre à partir de 18h à la maison de quartier Villejean, ici à Rennes. On commence par redire un mot sur le Secours catholique, ses équipes et puis ses missions.
Merci. Le Secours catholique, c'est une association qui date quand même déjà de 1946 et qui est organisée sur le territoire national en délégation. Et dans chaque délégation, il y a des équipes qui sont essentiellement constituées de bénévoles qui interviennent auprès des personnes en précarité de leur territoire. Alors quand on dit les personnes en précarité, c'est les femmes seules, les hommes seuls, les couples avec enfants, les personnes âgées. Donc dans chaque équipe, alors en Ille-et-Vilaine, on a 40 équipes, donc on a une dynamique de réseau assez importante. Et donc ces équipes de 900, ça représente à peu près 900 bénévoles, vont intervenir sous forme d'action ou d'activité. Alors la première action, c'est généralement la convivialité, à l'écoute. Ensuite, une action d'aide financière. On intervient aussi sur des besoins pour répondre à des besoins d'aide financière. Et ensuite, suivant les territoires, on aura d'autres types d'actions, des actions à la parentalité, de l'accompagnement scolaire, l'apprentissage du français ou des boutiques solidaires.
À Rennes, il y a une présence physique avec un local qui est installé dans la rue Louis Guillou, c'est ça, où il se passe beaucoup de choses toute la semaine.
Oui, tout à fait. Rue Louis Guillou, on a la particularité d'avoir un accueil de jour, donc qui est ouvert, un accueil de jour inconditionnel, qui est ouvert de 9h à 11h tous les matins et qui accueille aujourd'hui à peu près une centaine de personnes par matinée. Donc c'est là que ça montre aussi que la précarité est toujours présente, notamment sur notre territoire urbain. Donc voilà, un accueil du jour qui permet aux personnes de prendre un petit déjeuner, de se doucher, de déposer ses bagages et de laver son linge.
Je donne un autre exemple d'action qui est mise en lumière sur le site internet du Secours catholique, ille-et-vilaine.secours-catholique.org, un atelier hebdomadaire qui est organisé depuis plusieurs années maintenant chaque mercredi après-midi, atelier de football solidaire, et ça se passe au stade du Berry, ici à Rennes. Sur le nombre de bénéficiaires, est-ce qu'il y en a de plus en plus, ou est-ce qu'il y a une forme de stabilité dans les gens qui viennent vers vous?
Alors, on constate qu'on a, à peu près, hein, donc au niveau national, 1 million de personnes qui frappent à la porte du Secours catholique. En Ille-et-Vilaine, on est toujours aux alentours de 9000 personnes là, depuis l'année dernière et cette année. On sait qu'il y a eu effectivement la période Covid qui a un petit peu changé effectivement la manière d'appréhender les choses également. Mais on voit qu'au-delà de ce chiffre, il y a aussi une précarité qui se dégrade. C'est-à-dire qu'on constate plutôt des dégradations de situation. Et des nouvelles personnes qui viennent frapper à la porte du Secours catholique qu'on n'avait pas forcément auparavant, notamment des jeunes ou des personnes plus âgées.
Alors la conférence débat que vous organisez jeudi, elle est en fait en lien avec un rapport annuel, le rapport annuel que publie votre association de Secours catholique sur le thème de la pauvreté en France. Un document là que j'ai sous les yeux, sous forme de livret, alors quand même de 172 pages, un travail conséquent. À quoi ça sert un tel document, un tel livret ?
Eh bien, c'est important pour chaque année pour le Secours catholique de sortir ce rapport, puisqu'il donne des éléments sur la pauvreté des personnes qui sont venues effectivement frapper à la porte du Secours catholique, et il permet de mesurer, en tout cas de se rendre compte de la situation de la pauvreté, de la précarité, de la vulnérabilité de ces personnes au niveau national et au niveau local. Donc c'est un temps important. Ce rapport, il est issu des données de chaque délégation, des données qui sont faites localement. Donc c'est aussi un moyen pour le Secours catholique de témoigner sur ce qui se passe effectivement en réalité sur les terrains, et aussi de faire du plaidoyer, c'est-à-dire d'alerter sur la situation et de faire des recommandations ou des préconisations.
Ce rapport, il couvre l'année 2022, donc on est 2 ans après la crise, le début de la crise sanitaire, et puis on le sait, la guerre en Ukraine a amplifié le niveau d'inflation qui bat des records aujourd'hui en France. Vous faites un focus sur les femmes dites en première ligne, on le lit sur la couverture de ce livret. Quels sont les éléments principaux qu'on peut présenter aux auditeurs, même si le mieux c'est de venir à la conférence débat pour avoir le détail jeudi?
Bien entendu. Alors cette année, effectivement, la pauvreté, l'accent est mis sur les femmes, puisque ce sont les personnes qui sont les premières victimes en fait de la pauvreté. Aujourd'hui, ce sont 57% de femmes qui frappent à la porte du Secours catholique, donc c'est plus de la moitié. Donc automatiquement, on s'est intéressé à qui sont ces femmes, pourquoi elles frappent à la porte du Secours catholique. Et ce qui est important de noter, hein, peut-être un autre chiffre important, c'est que un quart de ces femmes sont des mères isolées et 20% sont des femmes seules, ce qui représente effectivement, ce qui veut dire que entre les femmes seules et les mères isolées, ça représente 46% des femmes qui viennent solliciter le Secours catholique.
Quelques données à l'échelle de la Bretagne. La région, elle a un taux de pauvreté relativement bas par rapport au reste de la France. En tout cas, il est de 10% environ. Mais la Bretagne fait quand même partie des territoires où les hommes et femmes étrangers sont plus fréquemment sans ressources. Et le taux d'emploi des femmes étrangères en particulier, donc des femmes qui ont été rencontrées par le Secours catholique, eh bien, il est inférieur de plus de 30% à celui des hommes étrangers. Page 109 du rapport, un entretien avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury vous permet d'aller plus loin sur le sujet de la féminisation de la pauvreté. Tout ça, c'est donc dans un rapport qui sera à retrouver en ligne à partir du mardi 14 novembre, et ce sera évidemment relayé sur le site ille-et-vilaine.secours-catholique.org. Parmi les actions du Secours catholique d'Ille-et-Vilaine, quelles sont justement peut-être les actions qui sont menées à destination d'un public de femmes? Il y a des choses qui se passent dans la rue, notamment lors de maraudes, mais aussi auprès des familles, donc dans les maisons et jusqu'en prison.
Oui, tout à fait. Alors, je citerai peut-être 2 actions particulières auprès des femmes. D'abord, la Maison des Familles, qui est une maison qui a un lieu d'accueil en fait pour des parents ou des femmes en demande de questionnement sur la parentalité. C'est un nouveau lieu qui a ouvert ses portes l'année dernière et qui est fait en partenariat avec ATD Carmonde et les Apprentis d'Auteuil. Donc, c'est un lieu d'échange, d'écoute, où l'idée aussi c'est de favoriser ce qu'on appelle le pouvoir d'agir des personnes, c'est-à-dire que les femmes elles-mêmes, les parents, sont moteur un petit peu de ce lieu et vont animer ce lieu. Et une deuxième action, c'est auprès de la prison des femmes. C'est vrai que nous avons une équipe qui intervient dans la prison des femmes et qui a notamment développé un vestiaire, une boutique solidaire à l'intérieur de la prison et qui accompagne effectivement les femmes aussi dans leur sortie.
peut-être redire qu'au-delà du genre, ce que vous me confiez avant qu'on débute cet échange, c'est que ce sont aux deux bouts de la vie que la précarité est en augmentation, donc chez un public jeune et aussi âgé.
Oui, c'est ce que constate effectivement le rapport, hein, c'est-à-dire qu'on a des visages de la pauvreté aujourd'hui qui sont un petit peu nouveaux, une population beaucoup plus jeune que la population française elle-même, et aussi une part qui augmente dans les plus de 60 ans, puisqu'on est passé de 6% à 13% en 10 ans. Et une grande fragilité, ce qui est aussi noté dans ce rapport et qui est inquiétant, c'est une grande fragilité chez les jeunes adultes de 15 à 25 ans qui vivent sous le seuil de l'extrême pauvreté, c'est-à-dire en dessous de 807 euros.
Ça, c'est l'extrême pauvreté parce que le seuil de pauvreté, lui, il est un petit peu plus haut.
Il est un petit peu plus haut, il est à 1100 euros.
Alors, jeudi 16 novembre, à partir de 18h, vous organisez avec le Secours catholique d'Ille-et-Vilaine une soirée autour de ce rapport annuel. Ça se passe à la maison de quartier Villejean. Il y aura d'abord une conférence débat, un temps de présentation autour de ce rapport annuel avec des partenaires et des témoins présents. Qui sont-ils ?
Qui sont-ils ? Eh bien, nous avons invité Madame Komokoli, qui est élue départementale, notamment sur la parentalité, mais qui a aussi mis en place sur Villejean une association. Nous avons également invité Charles Piollet, qui est chef de service à l'accueil de jour EOL, qui est un accueil de jour qui est ouvert spécifiquement pour les femmes. Et enfin, une témoin, c'est une maman, elle s'appelle Élodie, elle habite Villejean et elle viendra témoigner effectivement de son quotidien tous les jours.
La soirée, elle comprendra ensuite, à partir de 20h, un moment de théâtre. C'est le spectacle de Myriam Jolivet, qu'on avait déjà reçu dans ce studio. Un spectacle que vous avez peut-être vu ailleurs et que vous avez choisi de programmer ce soir-là.
Oui, c'est vrai que son spectacle est assez connu hein, sur le département et même ailleurs. Mais ce qui nous intéressait, c'était ce témoignage d'une femme, ce témoignage à la rue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est aussi inquiet hein, par rapport à ce qui se passe effectivement dans des grandes métropoles comme la nôtre, où on a un certain nombre de familles à la rue, des enfants à la rue. Donc ça fait aussi écho à cette difficulté-là du logement, parce que quoi qu'il en soit, quand on est une femme et quand on est en couple, on a effectivement souvent un logement stable, mais dès lors qu'on est en situation d'étrangère et qu'on n'a pas un statut légal, on se retrouve à la rue.
Enfin, certains ont peut-être encore en tête l'alerte des Restos du Cœur, c'était au début du mois de septembre. Restos du Cœur qui alertait sur l'impossibilité de répondre à tous les bénéficiaires potentiels dans le contexte d'inflation qu'on connaît. L'État, à ce moment-là, a mis 15 millions d'euros sur la table et puis il y a des entreprises qui ont aussi annoncé des dons très importants. Je voulais vous demander aujourd'hui comment se porte le Secours catholique. Est-ce que le ressenti est le même que pour les Restos du Cœur, peut-être à une autre échelle ?
Alors on a la particularité, c'est vrai, de ne pas faire de distribution alimentaire en tant que telle, mais plutôt à travers des aides financières. Donc on n'est pas impacté directement par cette question de l'approvisionnement de l'alimentation. Mais ceci dit, on est aussi inquiet que d'autres associations par rapport à notre équilibre financier, même si nous sommes financés essentiellement par des donateurs. Donc on sait aujourd'hui qu'on a besoin effectivement de moyens pour lutter contre la précarité, qu'aujourd'hui l'État se désengage quelquefois aussi sur la question notamment de l'hébergement et qu'il va falloir qu'on fasse face à de nouveaux défis. Donc on est inquiet pour nos partenaires par rapport effectivement à cette question de l'alimentation, puisqu'on sait très bien que dans les ménages précaires, en plus la variable d'ajustement sera souvent, presque toujours, celle de l'alimentation.
Est-ce que du côté des bénévoles, il y a aussi un appel à lancer ? On sait que certaines associations ont parfois du mal à avoir les équipes sur lesquelles s'appuyer pour mener toutes ces actions.
Ça fait partie des priorités du Secours catholique pour les trois années à venir. Effectivement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir 59 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire et 900, près de 1000 en Ille-et-Vilaine. Mais ceci dit, on est effectivement sur un bénévolat aussi qui vieillit et un souhait de pouvoir répondre aussi à de nouveaux projets, à de nouveaux besoins et de pouvoir mobiliser, avoir une dynamique de réseau à travers peut-être aussi un appel à des bénévoles plus jeunes et pour lesquels on devra s'adapter aussi à leurs contraintes de travail.
C'est entendu, Véronique Holnet, vous êtes donc la déléguée départementale du Secours catholique en Ille-et-Vilaine, association de soutien aux personnes en situation de précarité qui organise jeudi 16 novembre à partir de 18h une conférence débat sur la pauvreté des femmes. Ça commence à partir de 18h, mais le spectacle dont on a dit un mot, il commencera à 20h et ça se passe à la maison de quartier Villejean, ici à Rennes. Pour les inscriptions, ça se passe en ligne. Vous retrouverez le détail sur le site ille-et-vilaine.secours-catholique.org et la participation est libre. libre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Auditeurs, je ne peux que vous inviter à aller découvrir ce rapport en ligne donc sur Internet à partir de ce mardi. On retrouve également des recommandations de la part du Secours catholique pour une société qui prenne soin. On retrouve notamment le développement du parc d'hébergement en partie à vocation sociale, la régularisation des sans-papiers, mais aussi la reconnaissance de l'activité des inactifs, le combat à mener contre le non-recours aux prestations sociales et des rémunérations décentes pour les personnes en emploi.
Mais qui sont ces sorciers qui soufflent sur nos têtes ? Fraternité en jol, en veveglage, militant en cage, l'injustice crache, maladie grave, panouille en garde-ave. Le charme nous, gardez-le au garde-ave. Vous parlez pour défendre, mettre pièce, l'homme est sale, l'homme est nègre, casser mes propres l'envoi. Négabolité, magie yoa, dangere. L'esprit djenga, m'en évoqué. La pire nègre, fait yo pinceau. Verser de l'eau, ou verser liberté. Mon pani nan ma vran. Si yo pas mes coups, en caron, en caron.
Casse collective avec le morceau Mauvais Faisé. C'est une nouveauté musicale qui a été repérée par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B, et qui est à retrouver sur un album Big Words. C'est sorti le 11 novembre chez Catalpas Records. Et c'est le deuxième disque de ce groupe, Alpacas Collective, qui est un groupe belge, et qu'on retrouve sur le morceau que vous venez d'entendre, en featuring avec le rappeur créole Neg Madnik. Vous êtes en train d'écouter La Reine, c'est l'émission d'info locale de Canal B. Vous êtes sans doute sur le 94.0 2.0 ou peut-être connectés en ligne sur notre site canalb.fr où sont par ailleurs disponibles l'ensemble des émissions réalisées par des salariés et aussi par des bénévoles. Allez, on continue l'émission avec une seconde interview. Clémentine Comer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rennaise, docteur en sciences politiques et puis l'une des contributrices à l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui. Protester à Rennes dans les années 68, c'est paru au mois de juin aux presses universitaires de Rennes dans la collection Res Publica. On commence peut-être par présenter les autres contributeurs, des chercheurs qui sont rassemblés au sein d'un collectif. Vous êtes combien ?
Tout
à fait. Avec quel profil ?
Alors, on est 7 contributeurs, contributrices, et on n'est pas exclusivement des chercheurs, chercheuses, puisqu'il y a aussi Françoise Bagnot, qui est une militante féministe lesbienne, voilà, qui a œuvré pour la publicisation de cette cause-là, et qui a aussi intégré la démarche de recherche.
Et pour les chercheurs, donc, vous avez en commun d'être spécialisés dans l'étude des mobilisations sociales et politiques. On retrouve beaucoup de femmes dans ce collectif, le collectif à l'Ouest. Alors quand on pense au mouvement social de 1968, on a les images des barricades dans le quartier latin à Paris, avec un temps fort qui avait eu lieu le 13 mai 1968. Vous, avec le collectif à l'Ouest, vous avez souhaité proposer un regard un peu décalé à partir du cas de Rennes et de l'Ille-et-Vilaine, qui est peut-être un peu moins documenté. Il faut expliquer que c'est le prolongement d'une enquête nationale. Vous allez souhaiter aller plus loin que cette enquête ?
Oui, tout à fait. On a souhaité prolonger les résultats de cette enquête nationale qui avait déjà procédé à un décentrement puisqu'il s'agissait de documenter ce qu'étaient devenus les militants et les militantes des années 70, au-delà des figures consacrées du mai 68 parisiens. Donc en s'intéressant aussi à des militants et militantes dits ordinaires donc qui se sont mobilisés dans les métropoles régionales. Et donc un décentrement aussi temporel puisqu'on considère la conflictualité sociale et politique au-delà du mai 68 hein, pour embrasser toutes les années 70. Et donc on a eu à cœur, comme on avait fait un vaste travail d'enquête à la fois par récit de vie en interrogeant le devenir hein, de ces militants militantes, mais aussi en rassemblant un certain nombre d'archives, de renseignements généraux, d'archives syndicales pour documenter les luttes locales, les causes investies. On s'était dit qu'il y avait matière à faire un ouvrage qui pouvait porter le regard sur des dimensions un peu singulières du territoire ou alors sur des angles morts de la recherche.
Et on va y arriver dans le détail. Alors le nom de cette enquête, c'était Sombrero, une enquête d'envergure nationale qui avait été financée par l'Agence nationale de la recherche. Et donc, vous venez de l'évoquer, mais on le redit pour bien préciser, le cadre temporel, là, avec cet ouvrage, le cadre temporel étudié, il dépasse 1968, puisqu'on commence par parler de la lutte ouvrière en pays de Fougères, et ça c'est 10 ans plus tard.
Tout à fait. Donc c'est la mobilisation à la SPLI. Donc la Société parisienne de lingerie indémaillable, qui est en fait une usine caractéristique de ce qu'on a appelé la décentralisation industrielle, c'est-à-dire un patronat vivant à Paris et qui a en fait monté des établissements industriels en province et dans des provinces dites reléguées telles que la Bretagne était à l'époque où il y avait des plus bas salaires. C'était aussi le cas de l'usine Citroën Rennes, dont on parlera sans doute plus tard. Et du coup, en effet, en 1978, s'engage un mouvement de grève porté par ces femmes ouvrières pour défendre le maintien de l'emploi, puisque à cette époque, déjà, il y a un déclin du textile et donc il y a menace de fermeture des usines.
Donc, on ne s'intéresse pas qu'à Rennes, on s'intéresse à l'Ille-et-Vilaine. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce territoire ? Qu'est-ce qu'il a de spécial, justement, par rapport à 68 à Paris ? Rennes, territoire très étudiant, peu ouvrier hormis Citroën, on en redira un mot, plutôt marqué par l'implantation du secteur tertiaire des services.
Oui, voilà, Rennes, c'est typiquement une ville à dominante administrative et tertiaire, donc à en termes de physionomie qui n'a pas de gros bastions industriels hormis Citroën, donc qui va polariser un peu toutes les attentions militantes de l'extrême gauche, du syndicalisme, puisque c'est un peu le bastion à conquérir pour faire valoir sa légitimité à agir auprès des classes laborieuses. Et donc, à l'inverse, on a une population étudiante qui ne cesse de croître dans ces années-là et qui va aussi marquer la physionomie des luttes, puisque en fait chaque réforme universitaire va être très investie par les mouvements sociaux étudiants. Il y a aussi des luttes, par exemple pour la mixité des résidences universitaires ou des cités U, qui a été force de mobilisation du mouvement féministe et étudiant de ces années-là. Donc oui, une dimension très jeune aussi du mouvement militant lié à cette dimension étudiante.
Cette année 1968, avant d'aller dans le prolongement et de ce qui va se passer après, elle est aussi intense que l'année 1968 à Paris. Qu'est-ce qu'on en a conservé dans les mémoires ?
À l'image du 68 qui a eu lieu ailleurs, hein, on a un mouvement de convergence entre des mobilisations ouvrières, syndicales, donc des débrayages d'usines, et puis un mouvement étudiant de grande ampleur. Alors là, on retrouve les caractéristiques dont je viens de parler, hein, c'est-à-dire que comme le tissu industriel est assez peu développé, il y a par exemple un acteur majeur du syndicalisme qui est la CGT à cette époque, qui est relativement un peu plus absent à Rennes, ou en tout cas plus effacé, où il y a aussi la présence de la CFDT dans le sillon aussi du catholicisme social très fort de la région, qui du coup pose ses marques.
On reste dans le dossier syndicalisme, puisque le chapitre 2, il lui est consacré avec un focus sur la CFT, la Confédération Française du Travail, qui incarne un syndicalisme conservateur et dit indépendant, qui va tenter de monter, mais qui ne parviendra pas à se déployer au-delà de l'usine Citroën. On y revient, l'usine Citroën.
Oui. Alors là, on a vraiment aussi une singularité du champ syndical local, c'est-à-dire qu'à Citroën, en effet, s'impose un syndicalisme pro-patronal, en tout cas qui est une émanation en fait, des directions de l'établissement, et qui va par des systèmes de rétribution matérielle, de loyauté à l'égard des ouvriers, et puis aussi d'une forte répression syndicale avec un noyautage, des élections professionnelles, etc. Donc un peu par une politique aussi de la terreur, va s'imposer comme syndicat dominant. À la fois, ce syndicat tient l'usine, mais par contre, en dehors, c'est pas un interlocuteur légitime pour les pouvoirs publics. Et puis, en fait, les autres centrales syndicales consacrées, la CFDT ou la CGT, ne vont cesser de lutter pour dire que ce syndicat est illégitime puisqu'il ne représente pas la voix des travailleurs et des travailleuses.
Des syndicats, on passe aux étudiants, mobilisés dans le sillage de la contestation des institutions médicales de 1968 contre essentiellement la dégradation de leur formation, c'est en tout cas le point de départ, et ça se passe en 1973 à la faculté de médecine à Rennes.
Oui. Encore une fois, une mobilisation assez emblématique, notamment parce que elle témoigne aussi de la porosité des frontières militantes, en tout cas des multi-affiliations qu'il y a à l'époque entre le mouvement féministe, le mouvement d'extrême gauche, et puis aussi une cause qui est assez emblématique de la manière dont le territoire est travaillé symboliquement par les mouvements sociaux. Donc là, on a une dénonciation du sous-équipement médical et sanitaire en Bretagne. Donc on voit aussi des formes de prémices avec les causes, ou en tout cas des enchevêtrements avec la cause régionaliste qui est aussi forte à cette époque-là.
Et à l'époque, donc cette grève, elle sera votée par un millier d'étudiants en 1973. Notamment, on découvre que des membres du conseil de la faculté ont été séquestrés pendant une nuit dans la faculté de médecine à l'époque. Alors, au milieu de l'ouvrage, on découvre des archives, affiches, photographies, caricatures. On aperçoit les galeries Lafayette, qui s'appelaient les Belles Galeries à l'époque, et puis aussi les bus 70 sur la place de la mairie, ce qui a disparu, heureusement, aujourd'hui. Et puis, cinq visuels qui nous amènent au sujet des luttes féministes. On découvre que les ateliers en non-mixité, ça existait déjà à cette période-là. Et on retrouve notamment l'association Femmes Entre Elles, qui existe toujours aujourd'hui en 2023 à Rennes. Ça nous amène donc à ce quatrième chapitre, les chemins pluriels du militantisme lesbien et leurs effets émancipateurs. Des femmes qui vivaient cachées à l'époque étudiées, ce qui fait que le sujet lui-même était invisibilisé. En fait, c'est un des angles morts que vous étudiez.
Oui, au terme de la publication de l'ouvrage national Sombrero, on s'est aperçu que, encore une fois, au sein du mouvement féministe, on avait relativement éclipsé le militantisme lesbien hein, qui se sédimente à cette époque-là et dont on a encore fait peu l'histoire. Et donc on s'est dit, attelons-nous à ce dossier-là. Et en plus, Rennes est un peu un cas d'école puisqu'on a deux assos qui naissent dans les années 80 et qui sont relativement actives dans le champ associatif local et qui ont des formes très variées de manière d'appréhender le féminisme. On a des militantes lesbiennes qui se revendiquent de féministes, d'autres qui s'en détachent, et puis avec des parcours de vie aussi très marqués par la cause lesbienne et l'attachement à défendre le droit des minorités sexuelles.
La deuxième association que vous avez évoquée, en plus de femmes entre elles, c'est Cité d'Elle, lancée en 1983 et qui comprend dans ses rangs des militantes lesbiennes. Leur cheval de bataille, c'est de former les Rennaises à l'autodéfense.
Et le résultat, c'est que, notamment hein, grâce à ces luttes, eh bien, la visibilité lesbienne, aujourd'hui, on peut le dire, est facilitée. Les 68 arts, déçus à la fois par les effets et les coûts de la lutte collective, se seraient progressivement tournés vers leurs intérêts privés, notamment la réussite professionnelle et la vie familiale. Ça, on le lit donc, dans le livre « Protester à Rennes » dans les années 68. Pourtant, vous avez observé une diversité de parcours dans l'après 68. Certains sont devenus élus. Beaucoup ont rejoint le secteur associatif. Certains ont marqué une rupture avec le militantisme. Il y a eu plusieurs chemins.
Oui, je pense que ça aussi, c'était une volonté forte de notre part de contrecarrer le discours médiatique qui décrédibilise mai 68 en présentant les figures consacrées type Cohn-Bendit, etc. Voilà, avec une sorte de relation intéressée à cet événement, le fait qu'ils aient fait carrière, qu'ils aient des positions de domination aujourd'hui dans le champ médiatique ou politique. C'est pas ce qu'on observe quand on suit les chemins et les trajectoires des militants ordinaires. Il n'y a pas d'épuisement des idéaux, ils se recomposent plus qu'ils ne s'épuisent, donc on va retrouver finalement des investissements militants au travail, le fait d'avoir des pratiques engagées au travail, le fait de quitter les formations d'extrême gauche type maoïste ou trotskiste, mais pour recomposer l'engagement vers le secteur associatif ou vers des mandats politiques locaux dans les communes de résidence, etc. Donc on maintient un engagement, mais il prend d'autres formes. C'est ça quand même qu'on a observé.
Et cette recomposition, c'est le sujet du dernier chapitre, elle opère aussi dans la cellule familiale, puisque la famille, en tout cas dans ses traditions, a été vivement critiquée dans le mouvement social de mai 68, de 1968. Dans le dernier chapitre, vous allez voir du côté des enfants, comment eux ont été impactés par ce militantisme. Parfois il y a eu une transmission, parfois il y a eu rejet, mais en tout cas il s'est passé des choses.
Oui, là aussi, pour sortir un peu des idées préconçues, on pense qu'un mouvement social de telle ampleur, qui a mis en critique hein, les institutions, notamment l'institution familiale, aurait finalement ébranlé l'importance des liens familiaux dans les trajectoires de vie. Or, là, ce qu'on constate, en faisant un peu l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on a beaucoup étudié comment les parents socialisent politiquement leurs enfants, comment ils transmettent des idéaux politiques. Et donc là, on a procédé au questionnement inverse, c'est-à-dire comment ces 68 tardes, finalement, en maintenant des allégeances fortes à leur famille, ont permis de, à leur tour, façonner les représentations politiques de leurs parents et donc ont recomposé leur famille de l'intérieur sans couper les liens, mais en questionnant les grandes institutions que sont le mariage, les manières de faire famille, et en tout cas ont permis
du dialogue.
Voilà, du dialogue.
Aujourd'hui, là, en 2023, finalement, à quoi ça sert un tel ouvrage pour les lecteurs là, qui vont aller le découvrir? La dernière mobilisation sociale qu'on a en tête, c'est celle contre la réforme des retraites, qui a prouvé encore une fois que Rennes est un territoire particulièrement militant à gauche de l'échiquier politique. Cet ouvrage, il vient éclairer finalement la situation actuelle?
Oui, je pense que l'idée, c'était de montrer que... On a souvent une conception un peu immaculée des mouvements sociaux où à chaque fois se rejouerait quelque chose d'inédit en termes de mobilisation, alors que ce qu'on voit, c'est des continuités, en fait, que ce soit les répertoires d'action, le fait d'occuper la faculté pour des étudiants, c'est pas nouveau, c'est pas propre à la génération contemporaine d'étudiants rennais, ça a toujours été un lieu d'investissement fort des engagements militants, l'université. Et puis, bah oui, le poids aussi de la conflictualité au travail. Et je pense que la réforme des retraites, elle en a été le marqueur. Enfin, en tout cas, elle a témoigné du fait que le travail demeure un espace d'investissement fort
des militants.
Voilà.
Le détail des sujets qu'on a abordés, c'est à retrouver en près de 170 pages dans Protester à Rennes dans les années 1968, un livre qui est paru au mois de juin au PUR, les presses universitaires de Rennes, dans la collection Res Publica. Et Clémentine Comer, vous faites partie des contributeurs et contributrices qui ont écrit cet ouvrage. Son tarif est de 20 euros. Merci beaucoup.
Merci.
Tout le préjugé pour me vous évader de ce vieux monde briqué. Gardez les cheveux longs, gardez les cheveux longs. Si le bourgeois Henri brillait plus que lui, les romantiques aussi depuis longtemps nous ont dit. Gardez les cheveux longs, gardez les cheveux longs. Les chauves sur la terre peuvent s'aimer ainsi, mais les cœurs sincères seront de notre avis. Si les jours d'aujourd'hui ne sont pas jolis, pour pouvoir retrouver le goût des joies du passé, gardez les cheveux longs, gardez les cheveux longs.
Gardez les cheveux longs, c'est un titre de 1966 qu'on retrouve sur la compilation Rock 1, consacrée au rock en Bretagne entre 1964 et 1989. Et alors Gaelic, c'est un groupe entre Paris et la Bretagne qui sera finalement dissous en partie pour cause de départ au service militaire, c'était l'époque. En tout cas, un morceau qui collait bien avec l'interview que vous venez d'entendre sur 1968 et puis les suites du mouvement social de 1968 à Rennes et en Ille-et-Vilaine. Vous écoutez La Rennes, c'est l'émission d'info locale de Canal B qui se termine chaque jour avec une recommandation. La recommandation du jour, ce sont à chaque fois des conseils de choses à lire, à écouter, à voir ou à vivre, des sujets que je n'ai pas le temps de traiter plus que ça dans la longueur au cours de l'émission. Aujourd'hui, on annonce donc rapidement le prochain jeudi des archives. Ça se passe jeudi 16 novembre à 18h aux archives municipales, donc rue Jules Ferry, ici à Rennes. Et le thème exploré cette fois, c'est l'alimentation à Rennes à la Renaissance. C'est précis, la Renaissance, période de transition présentée comme décisive entre la culture alimentaire médiévale et la modernité culinaire des 17e et 18e siècles français. Pour en parler, Hubert Delorme, il est enseignant de technique culinaire, histoire et culture alimentaire en lycée hôtelier, également docteur en histoire à l'université d'Angers et l'auteur d'une thèse soutenue durant l'été sur l'économie de la table à Rennes à la Renaissance, ça tombe bien. Alors qu'elle soit ordinaire, festive ou extraordinaire, l'alimentation rennaise à la Renaissance sera présentée sous plusieurs angles, la production et le commerce, la sphère domestique et les contraintes, qu'elles soient religieuses, symboliques ou matérielles. Pour plus d'infos et pour s'inscrire à ce jeudi des archives qui a lieu jeudi 16 novembre, ça se passe en ligne sur le site archives.rennes.fr.
La Rennes, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.